Vous écoutez RTL.
Faut-il avouer à l'autre qu'on l'a trompé ? Telle est la question du jour en direct sur RTL. A tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce vendredi joyeux sur l'antenne d'RTL dans On est fait pour s'entendre alors que les babouins envahissent Paris. Bah oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, 50 babouins se sont échappés il y a peu du zoo de Vincennes. On a fermé les écoutilles à RTL, on ne sait jamais, mais si on voit passer un babouin, on ne sera pas surpris. Tout va bien donc dans ce drôle de monde. Ici, on fait de la résistance, vous le savez. Résistance à quoi ? À l'amorosité, à cette petite rengaine qui voudrait qu'on soit individualiste, indifférent à notre prochain, intolérant. Que nenni, la preuve tous les jours de 15h à 16h sur RTL. Et tout ça, ça fait du bien. Merci pour votre fidélité. 3210, les réseaux sociaux. Allez-vous témoigner cet après-midi sur l'antenne d'RTL ? Qu'avez-vous à nous dire sur l'infidélité ? Plus de la moitié des hommes et plus d'un tiers des femmes reconnaissent avoir été infidèles. Alors, faut-il avouer quand on a trompé ? Est-il bon de tout se dire ? Et après, le couple peut-il se relever ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Frédéric Hédon, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL en ce vendredi, Frédéric. Vous êtes médecin, vous êtes sexologue et psychothérapeute de couple. Vous êtes auteur de cet ouvrage « Rebondir après un chagrin d'amour chez Larousse ». Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir. En fait, on peut rebondir aussi après une trahison.
On peut toujours rebondir, ça s'appelle la résilience.
Alors la résilience qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément de pair aussi avec certaines vérités, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument avouer lorsque l'on a trompé ?
Non, je ne pense pas.
Très bien. À vos côtés, Marie-Claude Tréglia. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Flavie.
Ça va Marie-Claude ?
Ça va.
Vous êtes journaliste, vous êtes amie de cette émission, on est toujours ravis de vous recevoir Marie-Claude Tréglia. Marie-Claude, faut-il avouer quand on a trompé ?
Ben, ça dépend, quoi. Je crois que c'est vraiment la question la plus intime. Je pense qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de « il faut ». Et
absolument.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question depuis
sans
que
blague.
Vous me l'avez posée.
Ouais.
Et je me disais, au fond, la seule chose qui est certaine, c'est qu'on doit se la poser, mais dans son fort le plus intérieur, le plus intime, moi, je pense, en se demandant d'où on se la pose, enfin, qui se la pose. Est-ce que, moi, quand j'entends, justement, tromper, avouer, il y a des vieux relents de confession derrière, il y a un truc qui sent fort la culpabilité.
Absolument.
Et je me dis que la culpabilité est toujours mauvaise conseillère. Alors, est-ce que c'est le vieil enfant en nous qui veut demander à maman pardon, maman, et je vais tout balancer sur le dos, moi j'arrive plus à supporter, j'ai mauvaise conscience, et dans ce cas-là je pense qu'il vaut mieux se taire, plutôt que de nier l'autre et de lui balancer le fardeau. Mais il y a aussi une question où ce jeu, c'est peut-être le jeu du nous, le jeu du couple, qui considère l'autre comme l'autre jeu, un vrai sujet, et qui se dit juste ensemble, on va prendre ça à bras le corps, ça veut dire quoi, c'est quoi cette histoire ? Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut en parler, pas avouer, mais en parler. Voilà. Et que là, on est deux adultes, et on discute, et que peut-être ça peut faire grandir le couple ou exploser, mais que c'est du couple qu'il est question, et que l'autre existe à ce moment-là. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve justement toutes ces réflexions dans les différents témoignages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, et qui vont dans le sens de ce que vous venez de nous dire. À nos côtés également, Camille Saferis. Bonjour Camille Saferis.
Bonjour Flavie.
Alors, vous êtes rentrée d'Inde, parce que monsieur nous a signé un petit papier sympathique quand même. Hein. Vous êtes allé dans la ville Auroville, donc c'est le rêve qui a 50 ans. C'est une ville en Inde. On retrouve toute votre enquête dans le magazine Rolling Stones, actuellement en kiosque.
Ouais.
C'est censé être la ville idéale montée par Mère, Sri Aurobindo. Enfin bon, voilà. Est-ce que justement, dans un monde idéal, on doit dire toute la vérité, Camille Saferis ?
Ça n'a pas vraiment de lien avec le sujet du jour, je crois.
Non, mais j'essaie de rebondir. C'est tiré par les cheveux, mais je l'ai fait quand même.
C'est pas. Enfin, c'est assez loin du couple. Enfin, si, effectivement, le lien, c'est la recherche de la vérité. Mais là, je crois que c'est tout à fait autre chose en ce qui concerne Auroville. Dans le couple, je crois que les hommes et les femmes fonctionnent peut-être pas de la même façon. Moi, c'est ça. Je pensais être le seul homme, mais on est deux aujourd'hui. Mais moi, j'aurais des choses peut-être à vous dire là-dessus. Je pense que peut-être que les femmes sont... C'est toujours embêtant de faire des généralités, mais... peut-être davantage, disons, chatouilleuse sur la question de la vérité.
D'accord, que les hommes.
Que les hommes.
Ouais. Très bien. Oui, vous n'êtes pas le seul, figurez-vous. Vous pensiez être le seul homme dans ce studio ? Eh bien non, on avait aussi...
J'en suis ravi.
D'habitude, il est là, il est un peu couvé par toutes ses femmes, mais aujourd'hui, il partage avec Mickaël Stora. Bonjour Mickaël.
Bonjour Flavie.
Bienvenue Mickaël, vous êtes psychologue, vous êtes analyste également, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous. Vous êtes psychologue, psychanalyste,
voilà.
Et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et vous êtes auteur d'un ouvrage Hyperconnexion chez Larousse. On viendra d'ailleurs sur l'influence des réseaux sociaux, sur l'infidélité quand même aujourd'hui. Quel est votre point de vue sur la question ? Tout à l'heure, on a entendu Marie-Claude Tréglia qui me dit « Je me suis posé la question depuis que vous me l'avez posée, mais moi j'ai le sentiment que c'est une question qu'on se pose tous lorsque l'on est amoureux. » Et puis même dans la vie amoureuse, est-ce que je dois dire, est-ce que je ne dois pas dire ? Si on était amené à vivre cette épreuve-là, est-ce qu'il faudrait dire la vérité ? Ça taraude chacun de nous ?
Bien sûr, mais ça repose la question de qu'est-ce que ça veut dire tout dire au sein même d'un couple, au fond, au-delà de l'infidélité. Est-ce que le tout dire en soi est une chose saine ? Est-ce que ce n'est pas un fonctionnement infantile, puisque ce sont les enfants qui disent tout ? Et puis un jour, ça se retourne contre eux et ils développent le mensonge que nous, nous pensons comme une manière de s'autonomiser. Donc ça veut dire sous quel angle et quel type de tromperie ? Il y a peut-être mille et une manières de tromper et c'est là où peut-être se repose la question de ce qui est vrai ou en tout cas de la quête de la vérité.
Allez, on va se retrouver dans un instant avec nos invités, avec vous également sur l'antenne d'RTL. Si vous souhaitez témoigner, à l'instar de Julien qui va nous faire confiance et qui va nous éclairer de son expérience actuelle. Et à l'instar de Julien, si vous souhaitez témoigner sur l'antenne, vous composez donc le 3210 ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux et on se retrouve également sur RTL.fr. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Selon vous, faut-il avouer lorsque l'on a trompé ? Faut avouer à demi-pardonner, nous demande Gaël sur Twitter. Maxime nous écrit quant à lui, je ne pourrais pas garder cela pour moi. Je le dirai non pas pour me libérer de ce poids, mais pour être 100% honnête avec ma moitié, quitte à la perdre. Et puis on a Vincent qui nous explique, c'est peut-être égoïste, mais je préférais tout dire et me libérer de ce poids. Comment vivre normalement, voir son conjoint, lui parler, l'embrasser, lui faire l'amour en sachant qu'on l'a trompé avec quelqu'un d'autre ? J'aurais la conscience trop lourde. C'est marrant, Marie-Claude Triglia, parce que là on a deux messages différents qui viennent d'hommes. On en a un qui dit moi je le dirais par honnêteté, pas pour me soulager d'un poids, et on aurait Vincent qui nous dirait moi la culpabilité elle me dévorerait, ce serait pas possible quoi. Donc on a des profils complètement différents, ça dépend des histoires aussi.
Complètement, je pense que ça dépend de son tempérament, déjà de son histoire personnelle et du rapport qu'on a à la vérité, au mensonge, à la trahison, etc., à la transparence, et puis ça dépend de l'histoire de chaque couple, vraiment.
Et puis parfois, on a un point de vue sur la question qui est bien tranché. Et nous, ce qu'on aime faire dans cette émission, c'est mettre en doute nos certitudes. On a un point de vue sur la question et puis la vie nous amène à nous interroger. Et c'est le cas de Julien qui est en ligne avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Merci de la confiance que vous nous accordez, Julien, parce que je le disais il y a un instant, tout le monde considère qu'il a un point de vue bien tranché sur la question, il est bien assis sur ses certitudes, et puis un jour, la vie, nous amène son lot de surprises qui nous permettent de nous remettre en question. Est-ce que vous voulez bien nous raconter quelle est votre situation à vous aujourd'hui, Julien ?
Ma situation, elle est claire. Moi, pendant 20 ans, j'ai été convaincu, pendant 20 ans, depuis que je connais ma femme, j'ai été convaincu que de toute façon, si on trompe, c'est qu'il y a un problème. Et puis, il faut l'avouer, soit parler. On discute beaucoup, si vous voulez. Donc, on parle, on règle le problème, ou alors ça casse, terminé. Ça, c'était avant.
Oui, c'était avant quoi ?
Ça, c'était avant de retrouver donc un amour, je vais dire un amour de jeunesse. Non, c'est mon premier amour. Et je dis bien, je précise bien, c'est mon premier amour. C'était pas, c'est toujours. On a été séparés par la vie. Disons, on n'a pas rompu, on nous a rompu.
Oui, en plus de ça, vous avez été contraint de vous désaimer, peut-être. En tout cas, on a essayé de vous faire vous désaimer quand vous étiez plus jeune, c'est ça ?
On nous a fait croire qu'on ne s'aimait pas, qu'on avait été... Moi, on m'a fait croire qu'elle ne voulait plus me voir. Alors que c'était faux.
Et donc,
Quand je l'ai retrouvée, puis quand on a compris qu'on s'aimait toujours du même amour depuis plus de 20 ans, on a été 25 ans sans se voir. Voilà, la relation a démarré. On a voulu se réapproprier notre histoire, l'histoire qu'on nous a volée.
Je comprends. Je vous en prie.
Aujourd'hui, ma femme, ma femme, il n'y a pas d'ombre au tableau avec ma femme. Il y en a comme dans tous les couples, mais pas au point de la tromper. On dialogue beaucoup, on s'aime énormément, mais je peux pas me passer ni de l'une ni de l'autre. Si j'avoue, je perdrai tout. C'est la femme qui m'a reconstruit après tout ça. Si je la détruis à mon tour, je la perds et c'est normal. Mais je peux plus aujourd'hui vivre ni sans l'une ni sans l'autre.
Donc vous êtes perdu aujourd'hui, Julien. C'est une sorte de torture en fait, tous ces sentiments qui se...
Complètement. Et puis ça fait des mois finalement ça fait du bien de parler parce que ça fait des mois qu'on porte cette histoire que tous les deux.
Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'elle vous en dit justement, cette femme qui est revenue dans votre vie il y a 4 mois ?
Elle estime énormément ma femme.
Oh là là.
Et elle peut pas. Moi, elle m'a déjà dit qu'elle préférait arrêter que je perde ma femme, que de blesser ma femme. Mais je peux pas arrêter. On peut pas. L'un et l'autre, de toute façon, on sait qu'on peut pas arrêter. On est toujours. On s'envoie 300 SMS par jour. On se voit pas, on a un petit peu de distance, on se voit que de temps en temps. Mais quand on se voit, c'est plus simple. Il y a plus de monde autour de nous. On est tout seul, on est qu'à deux. Quand on est ensemble, il y a plus personne n'existe.
Et votre vie, quotidien à la maison, justement?
Ben, au quotidien, ben, je sais pas. C'est comme si j'avais un détachement complet. Quand je suis avec ma femme, je suis bien, je suis à l'aise, c'est une femme en qui j'ai entière confiance et je suis très à l'aise avec elle. Enfin, des fois, quand je la regarde, je culpabilise. Je me dis que je culpabilise. Mais j'adore être dans ses bras. Je peux pas me passer d'elle.
Julien, vous aviez un point de vue sur la question. Aujourd'hui, vous êtes en pleine interrogation. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Déjà, vous dites que vous n'êtes que deux avec votre secret. Vous n'en avez parlé à personne? Vous n'avez pas un ami vers lequel vous tournez qui pourrait peut-être vous éclairer, qui vous connaît, qui connaît votre vie?
Les seuls amis que je connais, ce sont des amis de couple. Puisqu'on a notre histoire à 20 ans. Hein.
Oui, bien sûr.
Ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie qui m'a fait rencontrer ma femme. Je vais aller lui dire ça aujourd'hui, elle va m'en vouloir. J'ai un amour, mon amour pour ma femme se voit. Donc je vais aller raconter à quelqu'un que je la trompe. Déjà, on ne va pas me croire. J'avais un avis tellement buté, on va dire, sur cette question, que de toute manière, on ne me croira pas. Déjà.
L'avenir vous fait peur, Julien?
Ah oui, tout à fait.
Vous voulez bien rester avec nous un petit peu, hein? On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL avec nos invités Frédéric Hédon, Marie-Claude Tréglia, Camille Saféris, Michael Stora. Ne bougez pas, Julien, nous non plus. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Vous êtes sur RTL aujourd'hui jusqu'à 16h. On s'intéresse à l'infidélité amoureuse. Faut-il l'avouer lorsque l'on a trompé? Voilà, c'est une question qu'on se pose tous. Et puis, on vient d'entendre le témoignage de Julien qui est toujours en ligne avec nous et qui est venu abolir en fait toutes nos certitudes et tous nos jugements. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on a une tendance à mettre dans le camp des mauvais ceux qui trompent, dans le camp des gentils les victimes. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. On parle de sentiments et là, en l'occurrence, quand on écoute votre témoignage, Julien, on sent que ça pue l'amour des deux côtés et que c'est compliqué à gérer tout ça. Ça vous fait du bien de parler, Julien, de cette situation?
Ah, bien sûr.
Oui.
Ah, bien sûr, on porte cette histoire. On n'est qu'à deux à la porter, cette histoire, depuis des mois.
Est-ce que vous vous êtes interrogé? Est-ce que vous avez dit, il faut que j'en parle à la femme qui partage ma vie depuis 20 ans, que je lui explique ce qui est en train de m'arriver?
Non. Ben, de toute façon, non, parce que... C'est pas une situation qu'elle voudra vivre et je la comprends. Si c'est, elle va me demander de choisir, je suis incapable. Je suis tout à fait incapable de choisir. Je suis incapable de dire, je privilégie toi ou elle ou n'importe qui. Moi, je dis toujours, c'est comme si j'avais un cœur à 200%. Je les aime toutes les deux à 100% chacune.
Oui. Je vous présente Marie-Claude Tréglia qui est avec nous. Marie-Claude, vous vous intéressiez au caractère aussi parfois. Protégé par le secret des histoires clandestines. Vous voyez,
oui, c'est vrai qu'il y a un peu, quand on vous écoute, et avec tout l'amour que j'ai pour cette œuvre, pour quelque chose d'un Roméo et Juliette, c'est-à-dire d'un amour empêché entre vous et cet amour revenu, c'est-à-dire il y a un amour une première fois empêché, et puis qui revient, et cet amour peut-être est fait pour être vécu de cette manière-là. Peut-être. Et peut-être. Voilà. Et si vous sortiez déjà, vous, de cette culpabilité, parce que quand on vous entend, c'est pas de l'ordre même de la tromperie. Moi, j'aime pas ces mots, ce mot. Depuis le début, je disais tromper, avouer. Il y a quelque chose du jugement là derrière. Mais vous avez l'air, quand vous dites j'aime à 200%, vous aimez chacune à 100%. Enfin, vous aimez. Vous n'enlevez rien à l'une ni à l'autre. C'est toute cette culpabilité qui vous ronge.
Y a cette idée aussi, Julien, que vous avez retrouvé un amour qui avait été contrarié. Comme si cette histoire n'avait pas eu de fin encore.
On a été séparés 25 ans. J'ai pensé à elle pendant 25 ans. Je pensais pas que elle. Je l'ai laissée tranquille parce que voilà. Après, elle a fait sa vie. Bon, aujourd'hui, elle est divorcée.
Donc elle est libre.
Elle est libre, oui. On s'est retrouvés complètement par hasard. On va dire, c'est la technologie qui nous a réunis puisque.
Enfin, c'est le hasard, mais elle est venue à vous quand même.
C'est elle qui m'a recontacté.
Voilà, c'est un hasard provoqué.
Moi, je voulais pas l'embêter. Je pensais qu'elle voulait. Ouais. J'étais vraiment convaincu qu'elle ne voulait plus moi. Donc, ouais, je la laisse tranquille. Mais ça n'a rien empêché. Ça n'a rien enlevé à nos sentiments. Et puis, on s'est rendu compte en se rencontrant que, elle avait les mêmes que moi. Et puis, on nous a gâchés parce qu'aujourd'hui, on serait fort probablement ensemble. Depuis toutes ces années.
Alors, on a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont vécu des situations similaires à la vôtre sur l'idée du souvenir. Jack qui tweet, je me demande visiblement cette attirance n'est pas juste aussi le souvenir de l'amour. À 27 ans, je suis ressortie pendant 6 mois avec ma copine du lycée que j'avais perdue en partant à Paris. Et puis au fil du temps, on a compris qu'on n'était plus forcément les mêmes. Vous avez peut-être besoin de vivre aussi ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour pouvoir à un moment donné savoir si oui ou non vous auriez pu poursuivre. On va se tourner vers Michael Stora qui est psychologue et psychanalyste. Michael.
Oui, alors je trouvais intéressant l'idée de se dire qu'on aime à 200%, 100%, mais ce que on entend aussi, c'est qu'il y a une différence, semble-t-il, qualitative dans ces 100%-là. On peut imaginer que la femme avec qui vous avez vécu plus de 20 ans, l'amour que vous portez pour elle est différent de celui que vous portez pour cette autre femme, non, j'imagine?
Il est différent. Disons que elle est déjà la mère de mes enfants.
Oui.
Déjà. Ensuite, je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a un peu réparé de cette rupture. C'est une rupture qui a été très difficile. J'ai mis 5 ans à m'en remettre de celle-ci, de cette histoire. Donc j'ai rencontré ma femme. C'est elle qui m'a redonné confiance.
Oui, donc vous avez plus une reconnaissance très profonde pour la façon que vous avez.
C'est vrai que si on peut se permettre quand même, c'est qu'au-delà d'en parler ici, c'est peut-être intéressant d'analyser en vous et donc d'aller voir quelqu'un, un professionnel de l'écoute avec qui il sera possible de mieux saisir l'histoire de ces rencontres et de ces contrariétés et de ce qu'on entend, c'est-à-dire une très grande culpabilité.
Frédéric Edon, rapidement, est-ce que l'on peut dire à Julien que de rester seul avec ce secret, le partager qu'à deux, c'est finalement ne pas forcément se donner la fenêtre vers une réflexion plus profonde? C'est assez compliqué quand on est dans un même...
Je crois que de toute façon, vous êtes dans une situation effectivement très délicate, très difficile à gérer, qu'il faut vous donner du temps, même si vous vous dites que ça ne peut pas durer longtemps. C'est vrai, c'est une situation... pas simple, mais il faut vous donner du temps à vous. Je pense que vous avez raison de ne pas vous ouvrir tout de suite à la femme avec qui vous vivez, en qui vous avez confiance, avec qui vous avez développé plein de choses, avec qui vous avez des enfants. L'autre histoire est une histoire plus passionnelle, on va le dire comme ça. Et donc, peut-être qu'il y a une évolution possible, il y a plein d'évolutions possibles. C'est l'une ou c'est l'autre, ça peut être aussi les deux, je vais le dire comme ça. Il y a des hommes ou des femmes qui arrivent à aimer deux personnes. Mais je pense qu'il faut y réfléchir, et je suis d'accord, il faut y réfléchir avec l'aide d'un professionnel qui saura vous écouter et vous laisser vous exprimer.
En tout cas, Julien, le temps file sur l'antenne d'RTL. Je vous remercie pour votre confiance. Si on a pu vous éclairer un petit peu ou vous soutenir dans ce moment qui apparaît difficile pour vous, écoutez, j'en suis ravie.
C'est difficile.
Et puis on vous embrasse, évidemment. À bientôt,
énormément.
Julien. Tenez-nous au courant, on vous embrasse aussi. Au revoir, Julien.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Merci d'être avec nous. Si vous étiez avec nous, justement, toute cette première demi-heure d'En effet pour s'entendre, vous avez entendu le témoignage de Julien qui nous a tous retourné le cœur, puisque c'est vraiment de cœur qu'il s'agissait. Julien, donc, qui est amoureux de deux femmes et qui se retrouve dans cette situation d'être un homme infidèle, alors qu'il aurait pensé ne jamais le devenir au regard de la relation qu'il a avec son épouse, avec laquelle il est depuis 20 ans. Valérie nous écrit « J'ai une théorie qui est qu'un jour ou l'autre, tout se sait », nous écrit-elle en lettres capitales. Donc au final, même en avouant, c'est au revoir, bye bye, adios, tromperie égale trahison, donc terminé. Oui, je sais, je suis radicale. Mais quand je n'ai plus confiance, c'est terminé. Et même si le conjoint ne l'avoue pas, soit cela se sent, soit on l'apprend d'une autre façon. Avec moi, avouez ou pas, cela revient au même. Il y a eu tromperie, non mais. Bon, très bien. Donc il ne faut pas tomber sur Valérie, dont on sent effectivement un point de vue radical. Et puis Stéphanie nous écrit, moi si ça m'arrive, je préfère qu'on ne me dise rien. À quoi bon? Ça mènera à des cris. La confiance sera perdue, la relation sera abîmée. Si ce n'est qu'une erreur, on se tait. Après, s'il s'agit de sentiments, c'est tout autre chose. Je voudrais que vous rebondissiez, Camille Saferi, sur ces deux messages. Celui de Valérie, tout se sait, et celui de Stéphanie qui dit « moi, je veux rien savoir ».
Est-ce que vous vous souvenez de ce film avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch qui s'appelait Les Infidèles.
Oui.
Il y avait dedans, c'était un film à sketch, et il y avait un sketch avec Alexandra Lamy, et à l'époque d'ailleurs ils étaient en couple. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est absolument fascinant. Je trouve que c'est très très bien observé. Ça illustre et ça répond un peu aux deux cas là. C'est-à-dire effectivement, est-ce que tout se sait toujours? Oui, on peut dire que plus ou moins, il y a des choses qu'on veut pas savoir. Et voilà. Mais vous voyez bien quand même que les femmes et les hommes fonctionnent pas de la même façon. Là, c'est deux auditrices.
Oui.
Dans ce sketch, donc pardon pour ceux qui l'ont vu, mais Gilles Lelouch joue le copain qui trompe sa femme, etc. Et eux, Alexandre Lamy, Jean Dujardin, vont dîner chez lui. Et puis en sortant, elle lui dit « Bon, allez, toi aussi, je suis sûr, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, tu l'as sûrement déjà fait. » Il dit « Mais non, pourquoi ?» Évidemment, il ne peut pas le dire. Elle dit « Non, mais vas-y, on est comme un couple, on est quand même des adultes, tu peux me le dire, ça ne va rien changer. Enfin, écoute, on n'en est plus là, on peut se dire la vérité. » Et puis, il ne veut toujours pas, puis de fil en aiguille, il dit « Bon, bah oui. »
Et là,
évidemment,
elle claque la porte.
C'est la fin du monde.
Elle claque la porte, évidemment.
Oui, c'est-à-dire qu'elle le pourrit durablement.
Mais c'est terrible, parce que ce que vous êtes en train de souligner, pardon Camille Saffery, c'est que parfois on a envie, enfin on veut savoir, mais en même temps on préférait ne pas savoir. On est conscient des conséquences, mais on va quand même chercher le truc.
Mais c'est parce qu'à mon avis, c'est lié à cette histoire du mensonge qui n'est pas vécu de la même façon chez les femmes et les hommes, à mon avis.
Ouais, c'est ce qu'on nous dit depuis le début.
J'aimerais me permettre de réagir, parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Si vous lisez « Votre ticket n'est plus valable » de Romain Gary, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque un tiers, parce que quelque part, ça relance quelque chose de sa relation amoureuse, au-delà de ses problèmes d'érection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui vont aussi, paradoxalement, chercher une forme de jalousie. On sait que dans la jalousie, il y a une dimension un peu persécutive, et toujours l'idée qu'en mettant un tiers, ça va, pourquoi pas, créer quelque chose d'une excitation. Et on connaît des couples qui ont pu être relancés à cause de tromperies. C'est très étonnant. Et je crois qu'à ce moment-là, la morale judéo-chrétienne, elle n'est pas essentielle.
Frédéric
Edon. C'est pas forcément à cause de tromperies, c'est à cause de l'intervention d'une troisième personne. C'est-à-dire que ça motive la jalousie, le désir.
Oui, ça remet la balle au centre.
Quelqu'un
en fait
qui vous est acquis, d'une certaine façon, on le désire moins que quelqu'un qui risque de vous échapper. C'est pas forcément une tromperie.
Non, mais
c'est
pas un chien qui va faire cet effet-là non plus.
Relation extérieure.
Mais on sait qu'un couple, c'est quand même un équilibre. Donc effectivement, il faut que les deux fassent un chemin l'un vers l'autre pour que ça fonctionne.
Oui, mais je disais que j'étais pas sûr qu'il fallait toujours le dire.
Bien
souvent, la personne finit par le dire en disant « Moi, je veux qu'il y ait la vérité, je veux pas de mensonges, etc. » Et en réalité, c'est parce qu'il ou elle n'arrive pas à se supporter en étant trompeur, enfin menteur.
Si je peux
me
permettre, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, pour lesquels la règle d'or, c'est jamais en parler.
Alors, c'est marrant, parce que
sur la réflexion de tout à l'heure, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Moi, avec ce que je fais depuis des années, qui est des thérapies de couple, je peux dire que les hommes vivent beaucoup plus facilement les relations extra-conjugales, voire vraiment amoureuses, sans rien dire à leur conjoint.
Donc vous êtes d'accord.
Beaucoup plus facilement.
D'ailleurs, une étude européenne avait montré que maintenant, en Europe, il y avait quasiment une égalité en termes d'infidélité. Mais au-delà de tout ça, et d'ailleurs, je trouve que c'est une chose tout à fait saine, si on est féministe. Mais ce qui est vrai, c'est que je crois que l'exclusivité amoureuse est une illusion nécessaire, évidemment. Et en même temps, c'est vrai que lorsqu'elle est rompue, il y a quelque chose qui vient briser et qui peut, paradoxalement, c'est ce que ma clinique, moi aussi, avec mes patients, m'a montré, même dans le cas de tromperie, peut finalement faire envisager autrement le couple. Et le couple est quand même une machine qui évolue. C'est une petite entreprise, comme disait l'autre.
Dans un instant, je vous lirai le message de Laurent qui, justement, confirme vos dires. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On parle de l'infidélité. Alors, nous sommes à l'antenne, les amis. Je suis obligée quand même de préciser à ceux qui sont autour de la table que nous sommes à l'antenne pour poursuivre nos échanges autour de l'infidélité. Des échanges qui, vous l'aurez compris, si vous nous suivez également sur RTL.fr, se poursuivent hors antenne, tellement le sujet
On se raconte nos vies, tout ça, on a appris des trucs très intéressants.
Oui, sur Camille Saffery qui va balancer dans un instant. alors, Laurent, qui nous écrit, ça va dans le sens justement de ce que vous nous disiez, Mickaël Stora. J'ai trompé ma femme
lors d'une soirée alcoolisée entre amis. L'ivresse n'est pas une excuse, certes, mais j'ai préféré tout lui dire. Elle a été en colère, elle a été triste, m'a rejetée pendant plusieurs semaines. Puis nous avons eu une grosse discussion tous les deux. Elle m'a pardonné, nous avons compris que beaucoup de choses n'allaient pas dans notre couple, ce qui m'a menée à cette erreur. Nous sommes donc partis sur de nouvelles bases et aujourd'hui, tout va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sain. On a des messages vraiment qui vont dans ce sens, qui nous disent, voilà, quand il y a tromperie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, nous écrit Cédric. Sans ça, c'est impensable. Est-ce que ça n'est pas une indication, un indicatif d'une problématique qu'on ne voit pas forcément, mais qui reste là?
Oui, et puis d'ailleurs, quel couple n'a pas de problème? Ça serait presque inquiétant.
Il n'y a pas d'amour sans histoire, disait voilà, Cabrel dans une chanson.
Tout à fait, donc évidemment, une grande référence. Et néanmoins, et c'est vrai que on peut se dire qu'un couple qui avance est aussi confronté. Et là, c'est intéressant.
À ces épreuves-là.
Bien sûr, et d'ailleurs, c'est quand même des tromperies. Sous le coup de l'ivresse, ça ne me semble pas être des vraies tromperies dans le sens amoureux. Et c'est là où peut-être les choses se différencient, voilà. Parce que finalement, alors voyez, je ne vais pas faire dans la différence du genre, mais on observe souvent que les femmes, si elles s'autorisent à tromper, d'une manière assez globale, c'est souvent avec le prétexte de l'amour. Ce qui, paradoxalement, est beaucoup plus inquiétant. Mais c'est pas vrai à 100%. Mais évidemment que quand même, cette question de se dire qu'une tromperie qui va être avouée va peut-être remettre en question le couple et va lui permettre de réenvisager le lien différemment est en soi une excellente chose.
Marie-Claude Réguillard.
Oui, je suis pas d'accord sur ce sexisme parce que, parce que c'est vrai que de manière générale, voilà, on va dire plutôt ça. Or, ces hommes qui couchent un peu partout, ces Don Juan d'un soir, ont quand même avec eux des partenaires qui jouent le même jeu, on va se dire. Alors peut-être qu'il y a des femmes brisées en face, mais il y a aussi des femmes qui jouent. Il y a des Don Juan de génie quand même. Et alors l'idée, c'est toujours ce truc, je dis pas. Et je pense vraiment fondamentalement que tout dépend de comment on respecte l'autre. Effectivement, il peut en aller de la survie d'un couple. Parce qu'on va poser l'autre encore une fois comme un sujet et qu'à deux on va essayer de voir ce qui se joue, mais quand même dans bien des cas vouloir tout dire c'est quand on en a gros sur le cœur et parfois on ne se demande pas si l'autre est en état de l'entendre ou pas, parfois on peut dire mais pas tout de suite, pas dans ces termes.
Ça veut dire que si on dit quelque chose ça va au-delà de la tromperie, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal dans le couple quelque quand part.
Quelque chose non, parfois qui va mal dans l'individu, qui supporte pas qu'il y a eu un petit truc de désir et qui parce qu'il est resté à un stade relativement infantile veut balancer.
Je veux bien qu'on rebondisse là-dessus Frédéric Edon. Ça peut être une histoire vis-à-vis de soi-même aussi. On peut être dans une période compliquée où on a besoin d'être rassuré.
Une histoire tout simplement vis-à-vis de nous, êtres humains, qui maintenant, imaginons le couple comme quelque chose qui se crée par attirance mutuelle, non seulement sentimentale mais sexuelle, et qui doit durer longtemps et qui doit être un couple monogame, enfin deux personnes. Et est-ce que la monogamie, on est vraiment fait, nous les humains, pour la vivre pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans? Je ne suis pas sûre. Donc après, il faut arriver à faire avec, et il faut faire avec en fonction de soi-même et de surtout de l'autre. Et la question du départ, c'est est-ce qu'il faut toujours avouer? Moi, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'il ne faut pas toujours avouer, c'est chaque fois quelque chose, c'est une question profonde, et il faut effectivement se demander, si je le dis à l'autre, est-ce que je vais juste me soulager? Est-ce que je vais juste m'ouvrir? Ou alors est-ce que je vais lui faire énormément de mal, un peu de mal? Est-ce que ça va nous aider à avancer? Ou est-ce que ça va provoquer un cataclysme?
Voilà. Mickaël Stora.
Je suis d'accord, en effet, c'est important de différencier la question de la fidélité du désir et la fidélité d'aimer. Parce que finalement, je ne crois pas franchement à la fidélité du désir. Certains vont l'agir en allant voir ailleurs, mais d'autres simplement vont rester au niveau du fantasme parce qu'il y a quelque chose d'une culpabilité très ancienne. Et c'est vrai que lorsqu'on se marie, disons les choses, on est censé se jurer fidélité jusqu'à la fin de ses jours.
Alors qu'on sait bien que...
Voilà, c'est un point de vue très moral. Par contre, l'autre phrase « vous vous aimez pour le meilleur et pour le pire » est peut-être plus intéressant du point de vue de la dynamique d'un couple.
Alors, on va se retrouver... Oui, allez-y, Camille.
Non, je veux dire, dans ce cas, effectivement, c'est un choix. On avait fait une émission sur le polyamour. C'est le choix d'un schéma, quoi.
On a un message de Bernard que je vous lirai sur justement les vœux du mariage et un autre de Mélanie qui, un jour, a pris son courage à deux mains. Elle l'a dit à son mari. La suite, c'est dans un instant. Teasing.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bernard Bernard nous écrit « Moi, je voudrais que ma femme me le dise si elle me trompe. On s'y jurait fidélité au mariage. Alors, si ce n'est pas le cas, autant être vraiment transparent et avouer sa faute. Si ce n'est qu'une aventure d'un soir, je pourrais éventuellement pardonner si elle tombe amoureuse d'un autre homme. Dans ce cas, c'est le divorce assuré. » Mélanie nous écrit « Un jour, j'ai avoué à mon mari que je l'avais trompé par souci d'honnêteté. Il ne l'a pas supporté alors que je voulais lui expliquer les raisons de cet accident. Il m'a claqué la porte au nez. Je regrette d'avoir pris mon courage à deux mains ce jour-là pour le faire. J'aurais mieux fait de me taire. » Frédéric Hédon.
C'est exactement ce que je voulais dire quand au début j'ai dit non, pas toujours. Ouais. Il y a des fois où il vaut mieux savoir garder, je ne sais pas quoi, on peut appeler ça son jardin secret, ses secrets personnels. Si elle considère que c'était un accident, c'est-à-dire que c'était bon, voilà, une bêtise, je me suis laissé aller, mais finalement ça ne représentait pas grand-chose, ça ne représentait pas un investissement ni rien, beaucoup, hein. À ce moment-là, pourquoi le dire ?
Absolument.
Surtout si on sait que ça va faire du mal.
Je pense qu'il faut parfois si on aime quelqu'un,
si on aime quelqu'un, a priori, on n'a pas envie de lui faire du mal de façon gratuite. C'est-à-dire que si on a fait une bêtise, il faut peut-être mieux garder sa bêtise pour soi et assumer.
Marie-Claude, Mélanie, elle nous parle justement, elle nous explique que tout ça n'avait pas d'importance, mais elle retient plus les raisons qui l'avaient amené à cet accident plutôt que l'accident en lui-même.
Elle voulait précisément, là, on sent quand même qu'elle avait envie de parler à l'autre en tant que l'autre du couple.
Exactement.
Et se dire, regarde, il y a un truc qui ne va pas entre nous. Et là, pour moi, c'était quand même l'adulte qui s'adressait à l'autre adulte, et peut-être que c'est l'autre là qui n'a pas été très adulte et qui s'est senti blessé narcissiquement, ou que sais-je.
Peut-être qu'il y avait un moyen d'aborder ce qui n'allait pas dans le couple,
autrement,
sans passer par cette méthode
qui
me paraît un peu le bam.
C'est peut-être la méthode qui était peut-être
le coup de massue. Donc,
c'est vrai que la méthode... maturité à tout avouer, mais il y a aussi une sacrée maturité à accepter que l'autre nous trompe, simplement pour une raison physique, mais que le coup va bien au-delà. Je crois que c'est là où, justement, cette idée-là nous renseigne vraiment sur le niveau de maturité, du point de vue même de son histoire. Je vais faire le psychanalyste un peu oedipienne, justement, dans cette capacité à se dire que, voilà, on peut, à certains moments, envisager l'autre comme un adulte, aussi différent, et qu'on peut l'accepter. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va voir ailleurs, nous-mêmes. Mais je crois que c'est là où peut-être se situe l'idée que cette exclusivité sexuelle n'est pas suffisante pour faire un couple. Ça me paraît évident, en tout cas c'est un point de vue, et que finalement le couple qui dure, c'est bien autre chose.
Oui, c'est vrai, il faut accepter qu'on ne cherche pas à être tout
pour l'autre.
Et accepter donc peut-être que l'autre soit aussi qu'on l'aime au point de pouvoir accepter qu'il ne soit pas toujours fidèle ou qu'il ne le dise pas toujours.
Oui, que l'autre ait un désir différent du mien. Moi, je trouve que c'est ça qui est fondamental, notamment pour faire couple. C'est déjà savoir que soi-même on a un désir à soi, que l'autre en a un, enfin qu'on est deux,
et que
c'est pas forcément le même. À certains moments, oui, il y a d'autres noms, et puis voilà.
Donc en gros, taisez-vous quoi.
Non mais attendez. Ça fait qui nous fait la conclusion.
Non, mais je pense qu'il faut
vous nous faites la conclusion avant l'heure, parce que parfois certains ont le courage de se taire, comme vous le disiez, pour préserver leur couple auquel ils tiennent vraiment plus que tout. Et d'ailleurs, on a Marie-Paul qui écoutait tout à l'heure le témoignage de Julien et qui dit « Mon époux a fait la même chose que votre témoin, donc Julien. Ça a duré 2 ans. Ça m'a cassé, ça a cassé la famille. Maintenant, j'ai pardonné et c'est difficile, mais il m'a choisi. » Donc voilà, il y a des issues. Il y a toujours une issue de toute façon, hein, qu'elle soit. Et puis certains aussi ne le disent pas par peur de vengeance. Et ça, c'est intéressant. Il y a Barbara qui nous dit, tout dépend du caractère du conjoint. S'il a l'intention de se venger et de vous pourrir la vie et de faire du mal à la personne que vous avez aimée, il vaut mieux se taire. Et c'est marrant parce que j'ai des histoires de vengeance et on développera très rapidement ça. On a par exemple Muriel, 50 ans, elle a fait ses cartons après 5 ans avec son copain. Il savait plus vraiment où il en était et tout. Et puis elle a appris la tromperie. Et avec des amis, elles sont allées vider sa cave de Grand Cru. Voilà. Et il y a des vengeances comme ça qui viennent les unes après les autres, qui sont ces petites vengeances qui font qu'à un moment donné, évidemment, on s'en prend. Non, mais notre égo s'en prend un coup dans la figure.
Ça serait bien qu'on trouve quand même des raisons, des arguments pour dire aussi un peu la vérité. On n'en a pas beaucoup trouvé, je trouve.
De quoi ?
Aujourd'hui,
mais
là.
Mais quelle vérité ? Mais moi, je pense que chacun a sa vérité, en fait, Camille Saferis. Je pense qu'il faut se départir d'une forme de culpabilité. C'est moi qui vais tout à coup jouer le... Alors, je vous explique. Je vous explique, Camille Saferis. Ça fait une heure que je vous écoute. Et que Marie-Claude Tréglia... Ben non, on va terminer, on va faire un tour de table. Marie-Claude Tréglia, se départir de sa culpabilité.
Se départir de sa culpabilité et ne jamais cesser de considérer l'autre comme un sujet, un autre, qu'on doit respecter, et soi-même aussi. Et à partir de là, on peut choisir de dire ou ne pas dire, mais pour de bonnes raisons.
Très bien. Donc, vous n'êtes pas pour...
Ah, pas pour tout dire. Surtout pas. Moi, je pense vraiment qu'on a deux désirs dans un couple et que plus on se préserve le sien, mieux on se porte.
Voilà. L'idée du jardin secret aussi, qui est très importante par rapport à sa propre identité. Vous avez une copine qui s'appelle Frédéric Edon. Forcément, vous êtes d'accord, Frédéric?
Je suis complètement d'accord.
Très bien. Camille Saferis, vous vouliez justement qu'on dise la vérité à la fin et qu'on conclue. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Non. Je vous ai raconté tout à l'heure cette histoire de ce chanteur très célèbre qui avait...
Oui, mais vous le disiez hors antenne.
Oui. Mais là, je ne vais pas vous dire son nom. Je vais pas vous
d'accord.
Dire son nom.
Alors allez-y, on va terminer là-dessus.
Et donc qui avait qui a eu un grave accident de voiture et puis il a fait venir sa femme. Il savait qu'il était condamné et donc il a dit voilà chérie, il faut que je te le dise. Ça fait 30 ans que j'ai une double vie. J'ai une autre femme. J'ai d'autres enfants. J'ai une autre maison. J'ai vraiment complètement une double vie. Et le problème c'est qu'il est pas mort.
Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais parfois on a eu la même chose à Hawaï. Hein, au moment où ils ont cru qu'ils allaient se prendre. Un missile, t'as un monsieur qui a appelé effectivement sa femme en disant il fallait que je te dise, je te trompe, je suis désolée, je veux partir la conscience
adieu.
Tranquille. Et le missile.
Et alors pourquoi avoir besoin Frédéric de le dire comme ça là au dernier moment?
Ça c'est l'idée de l'enfer, exactement.
On terminera
avec Michael Stora.
Oui, alors face à la mort, puisque c'est deux anecdotes qui parlent de la mort, finalement on parle de la mort du couple. Ouais. Et je pense que peut-être que c'est ça, c'est-à-dire c'est pas forcément ne pas tout dire, mais peut-être c'est de vraiment mettre en perspective la mort du couple à certains moments parce qu'elle est inévitable et qu'il faut pas chercher à tout prix à la faire vivre, et peut-être que certains vont utiliser des sortes de coming out d'infidélité.
Non, on se retrouve tout de suite sur RTL tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Ah, il faut les tenir hein, quand même. Hein. Merci Frédéric Edon, il nous reste très peu de temps. Rebondir après un chagrin d'amour, c'est chez Larousse. Salut Frédéric. Merci Marie-Claude, je vous embrasse. Merci Camille Saferis, vous viendrez nous voir pour nous parler un jour de votre pièce sur le polyamour. Restons polis, qui sera présentée l'été prochain au Festival de Santenay. Gros bisous. Merci Michael Stora, bon week-end. Et moi, je pars avec votre ouvrage Hyperconnexion chez Larousse. C'était passionnant aujourd'hui, mais on est en retard. C'est l'heure de nous souhaiter un bon week-end. On se retrouve lundi dès 15h pour parler de certains petits détails physiques que l'on considère comme disgracieux et qui deviennent de gros complexes. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Prenez soin de vous pendant le week-end, je vous embrasse et je vous dis à lundi.
Vous écoutez RTL.